Vous êtes bien à l'écoute de RFI, il est 21h à Paris, 20h en temps universel.
Charlotte de Rouen.
Bonsoir à toutes et à tous. Après des semaines de mobilisation en Serbie, le Premier ministre a démissionné aujourd'hui, tout en appelant à l'apaisement face aux manifestations contre la corruption qui ont gagné tout le pays ces dernières semaines. L'Iran réagit aux différentes sorties du président américain Donald Trump. Téhéran hausse le ton, notamment sur la question du nucléaire iranien, vous l'entendrez. En France, la ministre de la Transition écologique affirme sa volonté de défendre l'environnement face au populisme. Agnès Pannier-Runacher se dit inquiète, notamment avec l'élection du climato-sceptique Donald Trump aux États-Unis. La Serbie est-elle proche d'un changement politique majeur ? Après presque 3 mois de manifestations massives, le Premier ministre a démissionné aujourd'hui. Milos Vucevic, qui avant d'être le chef du gouvernement serbe a été le maire de Novi Sad. C'est pendant son mandat qu'ont eu lieu les travaux de la gare qui s'est effondrée en novembre dernier, tuant 15 personnes. Et c'est cet incident qui est à l'origine de la contestation à Belgrade, les précisions de Laurent Rouy.
Le Premier ministre serbe Milos Vucevic et le maire de Novi Sad, Milan Djuric, ont démissionné ce matin de leurs fonctions. Raison avancée, des violences commises par les militants du parti au pouvoir à Novi Sad la nuit dernière, contre des étudiants contestataires. Une étudiante rouée de coups et à la mâchoire décrochée a été admise aux urgences. Depuis le début des protestations, les divers incidents violents semblent toujours avoir été le fait de sympathisants du pouvoir, alors que les étudiants sont au contraire restés strictement non violents. Alors que la contestation populaire contre la corruption et contre le système semi-autoritaire du président Vucic ne diminue pas, le pouvoir qui avait lancé hier un appel à négocier resté sans effet semble de plus en plus faible. Pourtant, des députés d'opposition ont été empêchés physiquement d'entrer dans le Parlement ce matin et un vote de défiance envers le Parlement a été reporté. Le pouvoir reste donc aux mains du parti du président Vucic et de nouvelles manifestations sont prévues dans les jours à venir. Belgrade, Laurent Rouy, RFI.
Plusieurs ambassades attaquées aujourd'hui en République démocratique du Congo. Les représentations à Kinshasa de la Belgique, des États-Unis, de la France, de l'Ouganda ou encore celles du Kenya ont été prises pour cible. Des pillages et des dégradations signalées dans plusieurs d'entre elles. Les manifestants en colère dénonçaient la passivité de la communauté internationale face à la situation dans l'est de la RDC. À Goma, justement, les tirs d'artillerie et d'armes lourdes qui résonnaient encore dans la ville ce matin se sont finalement tus. Dans l'après-midi, les habitants ont pu sortir pour tenter de trouver des positions, des provisions. Beaucoup commencent déjà à manquer de nourriture et des cadavres étaient visibles dans les rues de la ville. L'Iran durcit sa position vis-à-vis des États-Unis. Le président américain Donald Trump a affirmé que Téhéran devait accepter un contrôle beaucoup plus poussé de son programme nucléaire pour l'empêcher d'aller vers la construction de l'arme atomique. Des propos du nouveau locataire de la Maison Blanche qui n'ont pas manqué de faire réagir les autorités iraniennes. Siavosh Ghazi.
Dans un entretien à la chaîne britannique Sky News, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé que l'Iran était prêt à entendre les propositions américaines sur le dossier nucléaire, mais que les États-Unis devaient faire des concessions importantes pour aboutir à un accord. Déjà, le vice-ministre des Affaires étrangères avait déclaré hier qu'un accord sur le dossier nucléaire avec Washington sera difficile à atteindre. Le président Trump avait en effet affirmé que l'Iran devait faire des concessions importantes pour permettre un nouvel accord sur le dossier nucléaire. Les Occidentaux accusent Téhéran d'avoir accéléré son programme nucléaire, contrairement à l'accord de 2015 avec les grandes puissances. Sur le plan régional, le chef de la diplomatie iranienne a également pris le contre-pied du président Trump qui a souhaité le transfert des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte et la Jordanie.
Les Palestiniens ne peuvent être expulsés, mais j'ai une autre proposition. Essayez d'expulser les Israéliens. Envoyez-les au Groenland, comme ça vous ferez d'une pierre deux coups.
Alors que la situation économique du pays ne cesse de se dégrader avec une hausse presque quotidienne des prix, les responsables iraniens semblent vouloir croiser le fer avec le président Trump et son administration qui veulent accentuer la pression contre Téhéran. Siavosh Ghazi, Téhéran RFI.
Le président américain Donald Trump qui invite le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Washington mardi prochain. Le dirigeant israélien sera le premier dirigeant étranger à être invité à la Maison Blanche lors du second mandat de Donald Trump. Il a affirmé à plusieurs reprises avoir joué un rôle clé dans l'établissement de la trêve entre Israël et le Hamas à Gaza. Les États-Unis, qui disent par ailleurs aujourd'hui soutenir la décision israélienne de couper tout lien avec l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens. Elle gère notamment les écoles et les centres de santé. Une agence irremplaçable, rappelle l'ONU, tout comme de nombreux États membres. En Europe, le président russe ouvre la voie des pourparlers, mais pas avec son homologue ukrainien. C'est ce qu'assure Vladimir Poutine dans une interview à la télévision d'État russe. Le chef du Kremlin qui a aussi affirmé que sans l'aide des Occidentaux, les Ukrainiens ne tiendraient pas plus de 2 mois. En France, la transition écologique défendue par la ministre Agnès Pannier-Runacher lors de ses vœux aux acteurs de la transition écologique. Elle a défendu l'environnement dans un monde qui fait face à la montée du populisme, mais au-delà du discours, la pression contre l'écologie est bien réelle, y compris de la part de ses alliés politiques en France et en Europe, Jeanne Richard.
2025 sera l'année de tous les dangers pour l'environnement, estime la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. L'élection du climato-sceptique Donald Trump, la course aux ressources naturelles et à la transition énergétique entre grandes puissances en témoignent.
Beaucoup de populistes dans le monde, en Europe et en France, veulent mettre à bas tous les efforts qui ont été accomplis alors que nous sommes aussi engagés dans une guerre économique. Il faut surtout ne pas relâcher l'effort. Ces filières industrielles vertes qui sont les emplois de demain, qui sont la richesse de demain de nos territoires. Et j'appelle à la mobilisation générale en France et en Europe.
Elle a beau le répéter, l'écologie est la solution. N'empêche, les vents contraires soufflent jusque dans son propre camp, rappelle Cédric Marteau, directeur de la Ligue de protection des oiseaux, avec plusieurs lois en préparation qui ferait reculer l'environnement.
Il y a un effondrement de la prise en compte de l'écologie par les parlementaires. Et là, on en appelle au Sénat et à l'Assemblée en disant « attention, ne reculez pas ».
Malgré le discours de la ministre et avec un budget contraint, le contexte général semble donc plutôt hostile à la transition écologique.
Jeanne Richard, la France où la circulation de la grippe reste très active. Plusieurs hôpitaux sont sous tension avec des centaines de personnes hospitalisées à cause du virus. Les personnes âgées sont parmi les personnes les plus à risque de faire une forme grave. Pourtant, une part importante des seniors n'est pas vaccinée. Un phénomène encore plus marqué dans les départements et régions d'outre-mer, comme l'explique Sophie Vaux. Elle est pharmacienne épidémiologiste à Santé publique France.
Dans les départements et régions d'outre-mer, les personnes de 65 ans et plus sont très peu vaccinées contre la grippe. Et ce qui est intéressant de mentionner, c'est que notamment dans les Antilles, il y a jusqu'à 20% des personnes non vaccinées contre la grippe qui déclaraient que globalement, ce sujet ne les intéresse pas et qu'elles ne se préoccupent pas de la vaccination grippe. Alors là, c'est vrai qu'il y a des messages quand même très forts à faire passer, c'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas méconnaître ce risque dans ces territoires. Les virus y circulent également. Et actuellement, notamment, l'épidémie de grippe est particulièrement virulente. Toute la France hexagonale est actuellement en épidémie, mais c'est également le cas des Antilles, de la Guyane. Mayotte est passée la semaine dernière en situation pré-épidémique. Il ne faut vraiment pas sous-estimer cette circulation et l'impact des virus grippaux dans ces territoires. Dans les Antilles et en Guyane, globalement, l'épidémie survient à peu près aux mêmes périodes qu'en France hexagonale et a les mêmes types de conséquences en termes de gravité.
Sophie Vaux, interrogée par Valérie Cohen. Dans l'ouest de la France, 1 000 000 de personnes évacuées à cause des inondations. Les départements d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de Loire-Atlantique sont en vigilance rouge pour crues. Certains cours d'eau atteignent des niveaux historiques. Le président français Emmanuel Macron a dévoilé aujourd'hui un grand plan de rénovation pour le musée du Louvre. Une nouvelle entrée, un espace dédié pour accueillir la Joconde. Coût estimé de ces travaux, 700 à 800 millions d'euros étalés sur une dizaine d'années, dont seule une part très minoritaire sera financée par l'État, selon l'entourage du président français. Les autorités comptent sur le mécénat et l'argent rapporté par l'utilisation de la marque.